Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Salut et bienvenue dans votre émission À bout de souffle. Pourquoi à bout de souffle ? Tout simplement parce que déjà nous serons deux derrière les micros, vous en avez l'habitude. Ensuite, parce qu'à la fin de l'émission, nous espérons bien que vous serez à court de souffle par tout ce que vous aurez entendu et appris. Et surtout parce que cette émission est un partenariat entre deux entités, monparisfm.com et isnews.fr. Deux entités promouvant la mixité sociale, les parcours atypiques et la réussite par le travail. Au cours de chacun de nos épisodes, vous aurez l'occasion d'écouter un acteur ou une actrice plus ou moins revenir sur son parcours, ses rencontres, ses réussites et ses échecs, des parcours qui, on l'espère, en inspirera plus d'un d'entre vous.
Là, je suis pas bien. Donc la morale, tu vas la faire à d'autres. Là, je suis pas bien.
Pour cet épisode avec moi, il fait partie de ceux dont le charisme suffit pour vous faire taire. Il utilise sa voix suave pour vous faire voyager à travers sa musique. Que les racines soient d'Afrique ou d'Europe, les paroles trouvent toujours preneur. Aboutal est mon invité. Comment ça va ?
Ça va et toi mon gars ?
Ça va très bien.
Merci de me recevoir.
Ça va, tu passes un beau début d'année ?
Franchement, ça va pour le mieux.
Hein. Tout se passe bien ?
Grâce à Dieu, ça va.
Bon, on va commencer par ça. Ça se fait pas d'habitude, on finit par ça. Mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024 ? On commence directement par ça.
De la belle musique, des belles rencontres, de jolis concerts et beaucoup d'amour. C'est suffisant, non ?
Bon, amplement suffisant.
On peut en vivre.
Voilà. On te le souhaite. J'ai l'habitude avec mes invités de faire une fiche d'identité. Mm-hmm. On commence par une fiche d'identité. Donc toi, ta fiche d'identité, c'est la numéro 141-069-04. Okay. Est-ce que tu es prêt à y répondre ?
Parfaitement.
Nom, prénom ou pseudo ?
Prénom.
Ah, on peut...
Aboubakar.
Date de naissance ?
17 septembre 1991.
Lieu de naissance ?
Paris, 10e.
Nombre de frères et sœurs ?
3 frères.
Situation et maritale ? Et ?
Marié.
Profession ?
Artiste, musicien.
Passion, hobby ?
Musique.
Talent caché ?
Guitare, on va dire, même si c'est de moins en moins caché.
Lieu de résidence ?
Paris.
Et tes réseaux sociaux ?
Aboutal09.
T'es présent sur quelle plateforme ?
Toutes les plateformes, hein, TikTok, Instagram, tout ce qui est dans l'air du temps.
Tu nous le disais, t'es né dans le 9e arrondissement de Paris ?
Non, je suis né dans le 10e.
Dans le 10e, pardon ?
Dans le 10e.
Comment se passe l'enfance d'Aboutal ?
Bah, l'enfance d'Aboutal, elle se passe... on a quand même de la chance, tu vois ce que je veux dire, d'être né ici, d'être né en France, tu vois, il y a toujours pire. J'ai de la chance d'avoir mes deux parents, j'ai de la chance d'avoir des frères et sœurs avec moi, tu vois, et de grandir avec des gens qui me ressemblent, tu vois. Et franchement, même si ça n'a pas toujours été facile, même s'il y a eu des moments qui ont été difficiles, tu vois, je peux quand même dire que j'ai eu une enfance chanceuse et heureuse, tu vois.
C'est quoi que tu appelles les moments difficiles ?
Bah, les moments difficiles, parce que tu vois, j'ai grandi entre deux cultures, tu vois, j'ai grandi, ma famille, tu vois, elle vient d'Afrique. Et tu vois, j'ai grandi pas forcément dans un milieu, tu vois, où il y avait beaucoup... on n'était pas grave représenté. Parce que moi, tu vois, je viens du 9e, tu vois. Et tu vois, j'étais pas grave représenté. Il n'y avait pas beaucoup de Renois, pas beaucoup de trucs, tu vois. Donc très tôt, tu vois, j'ai fait face au racisme. Tu vois, très tôt, je me suis rendu compte que je vivais dans un milieu où j'étais pas forcément, tu vois ce que je veux dire, où ça allait pas être simple, tu vois. Très tôt, j'ai compris que ça allait pas être simple et qu'il allait falloir devoir faire plus. Voilà, tu vois, sinon, mis à part ça, tu vois, j'ai quand même eu la chance, tu vois, d'avoir recevoir une très bonne éducation et d'être bien entouré aussi.
Et comment ça se manifeste, ce racisme ? Est-ce que c'est par des mots, des actes ?
Des actes et des mots, bien sûr, tu vois. Et franchement, le racisme, tu connais, c'est souvent la totale, tu vois, depuis que t'es petit, tu vois, des insultes, des brimades, tu vois, sans faire, tu vois, la victime, parce que j'aime pas trop ça, tu vois, mais bon, c'est des réalités, tu vois, et je peux pas mentir sur ce sujet-là, tu vois.
Et comment on se défend face à ça ? Est-ce que ça forge pas aussi son identité et sa
personne ? Ça forge clairement une identité. Bon, après, bon, au début, tu te bagarres, j'étais un peu turbulent, donc ça m'a valu pas mal de problèmes, tu vois. Mais ça forge, et puis on fait avec, tu sais, quand on est petit, on réfléchit pas, tu vois. On fait avec, on se bat, on évolue selon notre milieu, et c'est le milieu qui nous forge. Et aujourd'hui, je suis content de ce que je suis et de ce que je suis devenu. Donc, euh, Donc, je ne vais pas dire que si c'était à refaire, je reprendrais et tout ça, mais en tout cas, je regrette rien sur mon parcours.
Et quand tu rentres à la maison, est-ce que tu parles de justement ce racisme que tu vis avec tes frères et sœurs ou avec tes parents ?
Non. Je pense que c'est des choses, tu vois. Bon, déjà, j'étais petit, tu vois. Donc, quand t'es petit, tu parles pas forcément des choses parce que t'as l'impression que c'est comme une normalité, tu vois. Et puis, même mes parents, au final, tu vois, on est d'une génération où nos parents, ils étaient grave dans l'acceptation, tu vois. Bon, vas-y, il faut faire avec. Et puis, tu vois, nous, moi, j'ai une éducation de Westaf, tu vois. Les Westaf, c'est pas trop des gens qui se plaignent, c'est des gens qui font avec, qui sont très humbles, qui font pas de bruit, qui font pas de vagues, tu vois. Donc, mes parents aussi, ils en ont reçu, mais on en a jamais... Enfin, si, ils m'ont prévenu que quand même... Il y avait du racisme et qu'il faut faire attention, dès qu'il ne faut pas trop faire de bruit, il ne faut pas se faire remarquer, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Mais mis à part ça, non, je n'étais pas le genre de gamin qui allait dire « oui, papa, on m'a mal parlé, maman, on m'a mal parlé ».
Tu le disais, tu as reçu une très bonne éducation. Quel est le rapport à tes parents et à ta famille de manière générale ? Comment ça se passe entre vous à la maison quand tu étais jeune ?
Déjà, j'ai eu la chance de grandir avec mes deux parents. Ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là, tu vois. J'ai eu la chance de connaître ma culture d'origine très tôt, tu vois. Mes parents m'ont toujours amené au Sénégal, donc j'ai toujours pu voir ce que j'avais et voir ce que d'autres enfants ailleurs, tu vois, n'avaient pas forcément. Donc, et connaître une autre culture, eh gros, c'est une dinguerie. On ne sait pas à quel point c'est important d'avoir une double culture et de pouvoir mettre ce dans quoi tu vis et les valeurs que tu as en perspective, tu vois. Donc, tu peux te nourrir de deux cultures et ça, franchement, c'est une grande chance et c'est en ça que je dis que j'ai une chance d'avoir une très bonne éducation.
On peut autant aimer, du coup, la France que le Sénégal, c'est ça, en fait. Toi, tu dis qu'il n'y a pas de distinguo forcément à faire, il n'y a pas à choisir l'un ou l'autre. Si on prend des deux et on avance.
En fait, ce concept même de devoir choisir, je ne le comprends pas parce que moi, je suis juste ce que je suis, tu vois. Et je suis un Renois, un mec de Paname qui a grandi en France. Et qui est des origines sénégalaises, tu vois. Et j'aime autant l'un que l'autre parce que les deux, c'est moi, en fait. Tu vois, je peux pas choisir, je peux pas me diviser. C'est moi, en fait, tu vois. Et voilà, j'aime autant l'un que l'autre.
Et durant ton enfance, ces voyages au Sénégal, qu'est-ce qu'ils t'ont appris ?
Mes voyages au Sénégal, qu'est-ce qu'ils m'ont appris ? Déjà, ils m'ont appris ma culture, comme je t'ai dit. Et puis, ils m'ont appris qu'il y a des gens qui ont moins que moi, tu vois. Ça veut dire que depuis que je suis petit, j'allais au village et tout ça. J'ai même vécu au Sénégal parce que mes parents m'ont envoyé au Sénégal parce que je faisais des bêtises, tu vois.
Ils t'ont envoyé longtemps
Ouais, j'ai fait un an au Sénégal.
Et comment tu l'as vécu, justement, le fait d'être envoyé là-bas ? Est-ce que ça t'a permis, à ton retour, de faire moins de bêtises ? Ou est-ce que c'est le fait d'être allé au Sénégal qui a fait que tu as fait moins de bêtises, ou c'est juste la maturité, en un moment on a pris de l'âge?
Je pense qu'il y a les deux, tu vois. Il y a les deux, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui m'a forgé parce que tu es sans tous tes potes, t'es sans tes darons, et tu te retrouves solo, tu vois. C'est l'une des premières fois où je me retrouvais vraiment solo. Donc c'était difficile, je comptais le temps, je comptais les jours, tu vois. Je voulais vraiment rentrer. Mais... au final, je sais que c'est quelque chose qui m'a forgé parce que ça m'a donné une certaine maturité assez tôt, tu vois, que les gens autour de moi n'avaient pas, tu vois. Donc, c'était difficile, mais si c'était à refaire, je le referais vraiment.
T'avais quel âge à cette époque-là ?
J'avais 15 ans.
15 ans ? Et tu leur en as jamais voulu à tes parents choix ?
Non. Je leur en ai jamais voulu, en fait.
Et t'es le seul qui est parti au Sénégal ou tes frères et sœurs aussi ?
Non, je suis le seul.
Du coup, on va parler maintenant de l'école. Mm-hmm. Quel genre, tu le disais, t'es un enfant turbulent, mais est-ce que l'enfant turbulent, ça se reflétait sur l'élève ? Est-ce que l'élève aussi, il était turbulent ou c'était juste l'enfant ? Ou c'était un mixte des deux ?
En fait, j'ai eu plusieurs périodes dans ma scolarité. Quand j'étais en primaire, la primaire, c'était vraiment la période qui était la plus difficile pour moi, tu vois. Réellement, quand j'étais en primaire, je m'en sortais pas à l'école. Réellement, je pensais que j'étais bête. Parce que tu vois, bon, j'avais des problèmes de comportement. Et vas-y, en fait, j'avais une sale réputation dans ma primaire. Parce que vas-y, dès ma CP, vas-y, j'avais fait une connerie de ouf, on va dire. J'avais tapé une meuf et je lui avais cassé la dent, tu vois. Parce qu'elle m'avait dit que je ressemblais à du chocolat, tu vois. Du coup, je lui ai mis un coup de poing et... sa dent, elle est tombée, tu vois. Et du coup, vas-y, on m'a porté plainte et tout ça. Je suis allé au commissariat, tout ça.
Dès le CP, c'est ouf.
Dès le CP, tu vois. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai une sale réputation dans ma primaire, tu vois. Et du coup, au moindre problème, tu vois, et bah directement j'étais dans le bureau du directeur et tout ça, et les profs, ils avaient tous eu écho de ma truc. Donc, même dans mes notations, même dans truc, en fait, ça m'a, j'étais dégoûté. En fait, j'aimais pas l'école, tu vois. J'aimais pas l'école parce que on me faisait ressentir que vas-y, en fait, vas-y, t'es un mauvais élève, tu fous la merde, ceci, cela. Donc, j'ai eu vraiment passé un mauvais moment en primaire, tu vois. Donc, après, j'ai changé, je suis parti au collège. Au collège, ça commençait un peu à s'améliorer. Je commençais à avoir à prendre confiance, en fait, tu vois, par rapport à l'école, tu vois. Et au lycée, après, bon, je passais en général et tout ça. Lycée, ça commençait à aller, tu vois. J'étais bien. Mais tout ça pour dire que réellement, quand t'es Renoir ici, en fait, l'école, elle peut t'envoyer dans le mur juste, tu vois ce que je veux dire, sur des a priori, tu vois. Et c'est ça qui est réellement dangereux, tu vois. C'est ça qui est réellement dangereux parce que toute ma vie, j'aurais pu penser que j'étais tarté. Toute ma vie, que j'aurais pu penser que j'étais un mauvais élève. Toute ma vie, j'aurais pu penser que, vas-y, quoi que je fasse, en fait, j'allais être claqué, tu vois. Donc ça, réellement, les professeurs et tout le corps enseignant, des fois, ils peuvent réellement te plomber, tu vois. Et ça, réellement, avec le recul, je m'en rends compte que, en vrai, j'aurais pu foutre en l'air ma scolarité juste à cause de la perception que les professeurs avaient de moi, tu vois.
Mais justement, comment toi tu changes cette... Eux, ils ont cette perception de toi, mais comment toi tu fais pour avoir le déclic et te dire, bah non, en fait, c'est pas ça.
Mais en fait, j'ai pas eu de déclic parce que, en fait, quand t'es petit, tu réfléchis pas, gros. En fait, tu fais avec ce qu'il y a, tu vois. Donc, moi, c'est avec le recul, en fait, que j'ai compris ça, tu vois. C'est pas sur le moment. Mmh. Donc, et bon, voilà, quoi. Je pense que juste, déjà, le fait d'avoir changé d'établissement, ça m'a aidé, tout simplement, tu vois. Passer au collège et ensuite passer au lycée, tu vois. Et puis même ça aussi, j'ai eu la chance de grandir, tu vois, dans le neuf, tu vois. Donc il y avait des gens comme moi, mais même si on n'était pas beaucoup. Mais en fait, j'ai eu l'opportunité aussi de voir autre chose, en fait, tu vois. Et de voir que, bon, vas-y, tu pouvais t'en sortir à l'école. Et que y avait plein de choses à faire, tu vois, et que on n'était pas forcément condamné à tu vois ce que je veux dire, à être mal vu et à des mauvais élèves, tu vois, tout simplement, tu vois.
Et justement, tu parlais de cet épisode en CP. Est-ce que elle a eu des sanctions ou
non,
pas du
non,
tout?
Non, rien.
Et tu leur as quand même dit ce qui s'était passé?
Bien sûr, mais à l'époque c'est rien. Ouais, à l'époque c'était rien. Tu sais, c'est aujourd'hui que les gens on est devenu ultra sensible et ultra éveillé sur ces sujets-là. Mais avant c'était ça, on considérait ça comme des brimades de. Et en vrai, c'était aussi des brimades d'enfants, tu vois. Donc voilà, tu vois.
Et il y a un moment intéressant aussi où tu dis, en fait, quand on est Renoir ici, est-ce que tu penses qu'on est traité différemment? Et est-ce que c'est toujours le cas? Je ne sais pas si tu as des enfants. Si c'est le cas, est-ce qu'eux ont ce sentiment-là, ou des neveux, nièces, cousins, qui ont ce sentiment d'être traités différemment des autres?
Je pense que, encore une fois, quand tu es petit, tu en fait, tu fais avec, tu vois, tu fais avec quoi qu'il arrive, donc tu ne réfléchis pas, donc... J'ai pas de neveux et de nièces non plus. J'ai des enfants, mais j'ai pas de neveux et de nièces, donc j'ai pas eu l'occasion, tu vois. Et j'en ai pas qui sont venus m'en parler. Mais en tout cas, oui, non, c'est certain. C'est certain que je pense que quand tu viens d'une minorité, eh ben, y a toujours des a priori, y a toujours un jugement qui est un peu différent, tu vois ce que je veux dire, un regard qui est un peu différent.
Malgré qu'on soit enfant, c'est quand même quelque chose contre lequel il faut lutter. Quel conseil, toi, tu donnerais aux jeunes aujourd'hui à l'école s'ils sont victimes de choses comme ça, ou s'ils ont cette impression, en tout cas, d'être traités différemment? Qu'est-ce qu'il y a à faire?
Battez-vous.
Dans le bon sens, hein.
Dans le bon sens, ouais, je te jure. Dans le bon sens, tu vois. Et ça peut... Ça forge. Tout forge. C'est qu'une question de volonté, tu vois. Toute embûche, tu vois, tout obstacle... soit te faire couler, soit te faire grandir, tu vois. Aussi difficile, tu vois, qui puisse être, tu vois. Et réellement, battez-vous, tu vois, et ça peut devenir une force. Ça peut devenir une force. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que, tu vois, aujourd'hui, t'as beaucoup de Renois, tu vois, et qui s'en sortent, tu vois, plus que ce qui était prédestiné pour eux. C'est parce que, justement, quand t'as ce genre d'obstacle, gros, ça te rend trop solide. Trop solide. Ça peut donner une confiance en toi incroyable, tu vois. Et... c'est dans la vie, tu vois, ça forge et en fait tu peux te forger réellement un mental à toute épreuve, tu vois. Et certaines personnes qui ne passent pas par ce genre d'obstacles et par ce genre de difficultés, eh ben ils n'auront pas cette force là, tu vois. Donc c'est une difficulté, mais ça peut être une chance aussi.
Et je suppose qu'il y a les conseils aussi des parents. Il y a ce qu'on te dit à la maison quand tu rentres, sur justement se battre, etc. Est-ce que toi, il y a des conseils de tes parents ou de tes proches qui t'ont marqué et qui t'ont permis d'évoluer positivement?
Là tout de suite, y en a, c'est certain, tu vois. Là tout de suite, je n'aurais pas t'en donné un, tu vois, de la part de mes parents. Mais bon, je pense que déjà, l'ensemble déjà, tu vois, de l'éducation qu'ils m'ont donné, mmh. tu vois, l'opportunité, tu vois, et de mettre aussi, de me pousser vers la direction des études et tout ça, et même vers la religion et tout ça, c'est des valeurs qui n'ont été que positives pour moi et qui m'ont donné les armes pour m'en sortir aujourd'hui.
T'arrives en troisième, tu dis tu fais un lycée général. Mmh. Comment il s'opère le choix? Est-ce que déjà t'as le choix? Est-ce qu'on te dit tu dois... On sait qu'il y a plusieurs filières, soit bac professionnel, soit général, soit CAP.
Moi, j'étais prédestiné, mais comme tout le monde, un conseiller d'orientation. Oui, non, tu devrais plus t'orienter vers un CAP, vers un BEP, nanani, nanani, nanana. Tu vois. Et ça, tout mon collège aussi, tu vois, parce que je m'en sortais un peu plus, mais je n'avais pas des bonnes notes de fou non plus. Et je m'en souviens quand... Tu vois, troisième, et c'est en ça que je te dis aussi que j'ai de la chance d'avoir grandi dans le 9, parce que je voyais l'ensemble de mes potes, tu vois. Donc ça veut dire qu'il y avait des Français qui bénéficiaient d'une éducation, tu vois ce que je veux dire, un peu plus, tu vois ce que je veux dire, axé sur les études, tu vois. Il y avait des Renois, des Robeux comme moi, tu vois. Et l'ensemble du groupe, tu vois, je voyais que la plupart des gens, ils voulaient quand même aller en général, tu vois. Donc ça m'a poussé aussi à taffer pour aller en général, tu vois. Alors que si j'étais dans un contexte où forcément, tu vois, les gens, ils s'en foutaient un peu de l'école, et eh ben peut-être que j'aurais pas fait ces efforts là pour aller en général. Donc au final, j'ai réussi à aller en général. Je me souviendrai toujours que ce que ma prof principale elle m'a dit en gros, ouais, bravo à ceux qui sont passés en général, il y en a qui le méritent, d'autres qui le méritent un peu moins, comme Aboubakar. Je te jure, elle m'a dit ça, c'est une dinguerie. Alors que en vrai,
en même temps, c'est une dinguerie.
Alors que gros, en fait, j'ai taffé pour passer en général, wesh. J'ai taffé, tu vois. Mais elle m'a dit en gros, j'ai de la chance, tu vois.
On n'envoie pas en général quelqu'un qui taffe pas.
Exactement, tu vois.
Et ils ont ce pouvoir-là en plus de s'ils veulent pas envoyer un élève en général, ils l'envoient pas.
De fou. Et pourtant, je suis allé, genre. Et voilà, genre.
Et comment tu vis cet épisode? Enfin, quand elle dit ça, est-ce que tu te sens humilié ou est-ce que
non,
t'es fier antérieurement, tu vois, je mérite pas, mais j'y suis quand même.
Mais je m'en foutais parce que d'un, j'étais content, et de deux, c'était vas-y frère, en fait, dans ta face, en fait. Tu, vois. Tu pensais que j'allais pas le faire et je l'ai fait, en fait. Et maintenant t'as la rage, mais je l'ai fait. Je me suis fixé un objectif, j'ai travaillé et je l'ai fait, tu vois. Et ma mère, elle est contente. Donc vas-y, dis ce que tu veux.
T'arrives en général, comment ça se passe le lycée?
Le lycée, ça se passe bien. Non, ça se passe bien, mais en seconde. Parce que c'est là, à partir de cette période-là, que mes parents m'ont envoyé au bled. Tu vois,
15 ans. C'est vrai, 15 ans.
Tu vois, c'est là que mes parents m'ont envoyé au bled. Après, c'est là que, en fait, à cette période-là, moi, j'étais grave dans le Peura. Et dans mon quartier, il y a beaucoup de rappeurs. J'étais influencé par le Peura. Il y avait la section, il y avait l'institut. Moi, j'étais très proche de l'institut. Je traînais souvent avec des gens qui étaient plus âgés que moi. Genre. Donc, je traînais beaucoup avec l'institut. C'était une période dans mon quartier où il y avait beaucoup de, tu vois, d'embrouilles et tout ça. Tu vois. Et j'en étais. Tu vois. Et vas-y, ça a commencé à voler, commencé à racketter. Moi, j'ai jamais vendu de drogue, mais autour de moi, ça commençait à bibi. Tu vois. Et du coup, bon, mes parents, ils ont vu ça. Et moi, déjà, je commençais à être un peu pas en échec scolaire, mais bon. Bah si, en fait, parce que j'ai pas pu continuer en première, je voulais aller en ES, j'ai pas été truc, ils m'ont envoyé en STG, tu vois. Et du coup, j'ai retapé ma seconde au Sénégal.
T'as fait ta seconde au Sénégal, tu nous le disais tout à l'heure, le Sénégal, c'est là où tu vois d'autres choses, ça te permet aussi de te mûrir, etc. Il y a le retour en France, tu reprends l'école quand tu reviens
bien
en
sûr,
France.
Bien sûr, je reprends l'école.
Du coup, tu es en première, c'est ça?
Ouais, je reprends.
Donc,
tu as
retapé ta seconde, ouais, là-bas, tu es en première.
Ouais.
Première terminale, le bac, tu l'obtiens?
Ouais, le bac, je l'obtiens. Ouais.
Tu obtiens le bac avec mention?
Non.
Tu l'obtiens le bac. C'est déjà pas mal. Ouais. Déjà, il y a le bac. Est-ce que tes parents, à ce moment-là, ils sont fiers de toi? Et toi-même, quelle est ton opinion sur toi-même à ce moment-là?
Bah, honnêtement.
Sans plus.
Bah, en vrai, sans plus, tu vois. Quand tu vois, toute ta vie, on te dit, ouais, le bac, c'est important. Après, quand tu l'as, tu dis, ouais, en fait, ça fait rien, tu vois, ça change rien à ma vie, tu vois. Et donc, ouais, non, j'ai eu mon bac sans mention, mais je l'ai eu quand même, et voilà.
Et après le bac, quel choix s'opère?
Après le bac, j'ai fait une licence échange international à Créteil.
Je continue. Et tu vas au bout de la licence?
Ouais, je suis au bout de la licence, ouais. Je suis au bout de la licence.
Et comment ça se passe?
Bah écoute, ça se passe plutôt bien. Ça se passe bien, très bien même, parce qu'en même temps, je faisais de la musique, tu vois, je commençais
c'est
déjà
avec
Shinsekai.
C'est là où tu commences, là, on va en parler.
Avec Shinsekai, je commence en 2011-12, si je ne me trompe pas. Et à cette époque-là, j'étais à la fac. Quand on se rencontrait d'Adjou, j'étais à la fac. Et voilà, je fais les deux. Première année, ça passe. Deuxième année, ça passe. Troisième année, ça passe aussi. Et bon, après la troisième année, j'ai dû m'arrêter parce que je pouvais... j'avais beaucoup de stages, tu vois, dans le cursus que je faisais. Tu vois, des stages de 6 mois et tout ça. Et je faisais déjà de la musique. J'arrivais à en vivre. Donc j'ai dit, vas-y, je pouvais pas continuer les deux en même temps, tu vois.
Mais c'est une dinguerie parce qu'il y a cet épisode de, du coup en troisième où la prof a dit certains méritent, d'autres un peu moins comme Aboubacar. Finalement le gars il va jusqu'en L3, il obtient sa licence et gros, c'est fait, un truc de ouf en fait, faut croire en soi.
Mais en fait gros, il y a, en fait, pour revenir encore à ce que je disais par rapport à la primaire, tu vois, il y a tellement de gens et de potentiel, frère, que l'école tue, frère. C'est une dinguerie. Moi, je suis un rescapé, je te cache pas. Je suis un rescapé parce que j'aurais pu réellement finir dans quelque chose de bien plus négatif, tu vois. Parce qu'il suffit de deux, trois paramètres environnementaux, tu vois, et tu peux vriller dans le truc. Et c'est en ça que je te dis que réellement, les profs, des fois, il y a des mecs qui sont brillants, tu vois. On en connaît tous des mecs dans la rue qui sont brillants, en fait. Ils sont grave intelligents. Mais l'école les tue, en fait. L'école les tue. Et ça, c'est incroyable, ça.
Mais c'est vrai que c'est ouf. Du coup, comment toi, tu... comment est-ce fait la connexion entre toi et la musique? Tu disais, il y a le rap, toi tu suis un peu les groupes, tu suis un groupe qui est plus âgé que toi. Comment elle vient à toi la musique, ou comment toi tu vas à la musique?
Bah, la musique, elle vient à moi parce que dans mon quartier déjà ça rappe, je m'en souviendrai toujours. Un jour mon grand frère il est venu avec un CD, tu vois, c'était le CD de la section. C'était à l'époque, mais réellement c'était vraiment, tu vois, tu faisais ton son studio, ils te mettaient tes sons sur un CD et après voilà, les gens ils se les gravaient, tu vois, ils se les faisaient tourner, tu vois, dans mon quartier. Et du coup j'étais tombé sur un son de section et je me souviendrai toujours de ce jour, frère. Je me souviens du jour où mon frère il a mis le CD dans le lecteur, tu vois, il a mis play et ça m'avait giflé, ça m'avait retourné de voir que, tu vois, des gens comme moi, tu vois, des gens de mon quartier, tu vois, des gens que je veux, parce que tu vois, les membres de section réellement depuis la maternelle, tu vois, je les connais, j'étais un peu leur type et tout ça, et ça m'avait fasciné. Je me dis, vas-y, je veux en être, tu vois. Et mon frère il a commencé à rapper, j'ai rappé aussi très tôt, tu vois, j'ai commencé à rapper à 12 ans. Et voilà, hein. Après, en fait, ça a toujours fait partie de mon truc depuis que j'ai 12 ans, tu vois. Et j'ai jamais arrêté jusqu'à ce que j'ai eu l'opportunité de faire ça au niveau professionnel, tu vois. J'avais jamais eu l'intention de le faire au niveau professionnel. Parce
c'est ça la question que tu posais. C'était pas un rêve objectif?
Non, ça a jamais été.
T'étais passionné par autre chose Est-ce que tu savais ce que tu voulais faire plus tard?
Non. J'ai jamais su ce que je voulais faire plus tard. J'ai toujours aimé le rap. Et même quand c'est venu à moi l'opportunité d'en vivre et de faire, à ce moment-là, j'avais jamais rêvé d'en faire professionnellement. J'ai toujours fait ça réellement par pur plaisir, tu vois. Même pas pour les vues, parce qu'à l'époque YouTube c'était pas, en fait, on postait des trucs sur YouTube, mais on regardait même pas les vues, tu vois. C'était vraiment dans un, comme je sais pas, il y a des gens qui jouent au foot dans la rue sans réel objectif, tu vois. Comme il y a des gens qui font de la guitare chez eux sans forcément avoir envie de devenir Jimi Hendrix, bah moi je faisais du rap comme ça, genre.
Eh ben, est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui te disaient déjà, t'as un potentiel, il y a un truc à aller chercher, il y a un truc à gratter, ou pas?
Non, moi je voulais juste être fort, tu vois. Depuis que je suis petit, on me disait que j'étais fort et je voulais juste être fort. C'était réellement
meilleur que les autres.
Être meilleur que les autres, tu vois. Et d'ailleurs ça me fait penser parce que tu vois, je sais que, tu vois, on est dans le quartier de la MZ ici, tu vois.
Ouais.
Et je m'en souviens, à l'époque, ils avaient organisé... Bah, tu sais, j'étais à cette époque-là, j'étais très proche d'eux. Même si, tu vois, ce que je veux dire, on est toujours très proche, tu vois.
Joker,
exactement, tu vois. Et à l'époque, vu qu'ils sont de la même génération, tu vois, on allait dans chaque quartier, tu vois, on allait freestyler et tout ça. Et ils avaient organisé ça avec Demo et avec Joker et HP et tout ça. Et on avait fait... C'est comme ça que je les ai rencontrés, tu vois. On avait fait pas un battle parce que c'était pas du clash, mais... On faisait, en gros, chacun rappe son texte, tu vois, et les autres désignaient c'était qui les meilleurs, tu vois. Et c'était juste, tu vois, dans une démarche d'être les meilleurs, pas forcément de percer, tu vois, parce que c'était pas filmé, c'était pas truc, mais c'était juste dans une démarche d'être le meilleur. Et franchement, ça, je le regrette parce que ça existe plus, ça, tu vois. Les gens, ils veulent juste percer, tu vois. Les gens, ils le font plus ou moins par plaisir, tu vois. Tout doit être filmé, tout doit être truc. Ah, c'est bien parce qu'il y a des vues, c'est moins bien parce qu'il n'y a pas de vues ou des moins de streams. Mais avant, tu vois, on le faisait réellement par pur plaisir et juste pour être fort.
Et comment on revient à ça, en fait? Est-ce que tu penses que c'est possible de revenir à ça? Ou est-ce que tu penses que c'est le fil, on l'a perdu, maintenant c'est parti?
Non, je pense... Non, après, bon, c'est... En fait, je pense qu'il y aura toujours des passionnés, tu vois. Il y aura toujours des passionnés. C'est juste que la passion, elle s'exprime différemment. Mais bon, je pense qu'on a une autre époque, c'était très bien, tu vois, c'était très bien comme ça. Et je pense que les plus jeunes aussi, tu vois, ceux qui sont venus après moi, ils auront la même manière d'exprimer leur passion, tu vois. Mais c'est juste que moi, voilà, moi, mon côté nostalgique qui me fait dire que ouais, c'était trop bien, tu vois.
Tu le disais, tu commences à rapper à 12 ans. Mm-hmm. Ça raconte quoi, un gosse de 12 ans dans ses textes?
De la merde. De la merde, ça raconte...
Tu parles un peu de l'école, de la primaire, etc. Non, justement, t'en parles pas du tout dans tes textes.
Non. Franchement, c'était vraiment des petites bouts de phrases. Tu vois, il n'y avait pas forcément de sens. Ou... C'était juste dire que tu connais le rap. Avant, c'était très axé sur l'ego trip. C'était vraiment de dire que vas-y, je suis le plus fort. Mon équipe, c'est les plus forts. Et que et la rue et mon quartier, on est les meilleurs. C'est tout, en fait. C'est tout.
Il y a la rencontre avec Dadju. Mm-hmm. Comment ça se passe, cette rencontre? Comment vous vous rencontrez tous les deux?
Dadju, je le rencontre... je le rencontre en sortant de la bibliothèque.
Ok. Okay.
J'étais à la fac en L1 et des fois, j'allais taffer à Beaubourg. Tu vois, à Beaubourg. Et c'est à côté de la boutique, tu vois. Donc, je sors de la bibliothèque. Lui aussi, il était à la fac à cette époque-là. Il était à Saint-Denis. Je sors de la bibliothèque. On va se péter à la boutique boutique, tu vois. Et il était là, je le connaissais pas, il me connaissait pas. Peut-être qu'il me connaissait, mais en tout cas, moi, je le connaissais pas. Et il y avait Section, il y avait H-Magnum. À cette époque-là, moi, je faisais un projet solo. Et ils ont dit, ouais, nanana, vous devriez faire du son ensemble et tout ça, ce serait vraiment bien et tout ça, truc. Vas-y, on s'est changé les contacts et tout ça. C'était dingue parce qu'on avait le même âge. On était tous les deux à la fac en L1, on t'a fait chacun de notre côté, lui moi je livrais des pizzas, lui t'a fait au McDo, tu vois. Donc on aimait tous les deux le son, tu vois. Donc on avait réellement des profils graves, on faisait exactement la même taille, on avait grave des profils graves similaires, tu vois.
Même physiquement,
tu vois, tu vois ce que je veux dire, c'est dingue parce que tu vois.
On pourrait croire que c'est des frères.
Exactement, il y a plein de gens qui m'ont dit ça, tu vois. Et puis voilà, de fil en aiguille, on commence à faire des sons ensemble et ça prend bien, tu vois, ça marche bien, tu vois. Il y a un bon format, tu vois, et les gens ils nous poussent à essayer de faire un groupe, tu vois. Du coup, on a essayé, c'est comme ça que c'est parti, tu vois.
Et du coup, la connexion entre vous, dès que vous vous voyez, en fait, dès que tu sors de cette bibliothèque, est-ce que tu dirais que c'était comme
un déclic ou un coup de foudre.
C'est ce que j'allais utiliser comme terme.
Non, pas forcément. C'est pas un coup de foudre, tu vois ce que je veux dire.
Parce que même musicalement, finalement, vous vous connectez archi bien. C'est quelque chose qui va super bien marcher.
Ouais, ça marche bien. Mais après, je te cache pas que, encore une fois, tu vois, je le fais pas pour percer. Je le fais à cette époque-là, tu vois, même si c'était sur Watibé, je le faisais même pas pour percer réellement, tu vois. J'étais vraiment un kémé, tu veux faire du son avec moi, vas-y, on y va, tu vois. J'étais réellement comme. Parce que tu vois, je vais pas te mentir, déjà, il était pas trop fort à cette époque-là, tu vois. J'étais vraiment un peu plus en avance que lui, tu vois, niveau musique, tu vois. Et je me suis jamais dit, ah, vas-y, ce mec est trop fort, il faut absolument que je fasse un groupe avec lui, tu vois, truc. C'est réellement. Vas-y, je t'aime bien, vas-y, on va faire de la musique ensemble et let's go, tu vois. Et c'est comme ça que c'est parti, tu vois.
Et comment ça se passe entre vous deux pendant ce groupe-là? Il y a l'explosion du groupe, etc. Mm-hmm. C'est peut-être là aussi où on commence, toi, à te reconnaître plus dans la rue, mm-hmm. te voir, à te demander des autographes. Déjà, comment toi, tu gères cette nouvelle notoriété-là? Et comment vous gérez votre entente entre vous deux? On dit que dans un groupe, c'est toujours facile, mm-hmm. c'est toujours difficile, pardon, mm-hmm. quand on est deux personnes. Il y a mm-hmm. peut-être toujours un peu un qui prend un peu plus la lumière que l'autre. Mm-hmm. Il y a peut-être un moment aussi où on explose, où il y en a un qui veut plus se mettre en avant que l'autre. Sûr. Comment vous gérez tout ça, finalement?
Comment on gère tout ça? Bah, bon, déjà, moi, je suis un kémé, j'ai toujours été pour l'entente, tu vois. Donc, j'ai toujours été pour l'entente, donc, vas-y, on arrivait quand même bien à cohabiter, à arriver à faire du son, tu vois. Donc ça n'a jamais été un problème, ce qui a été, bon, l'exposition, qui fait ceci, qui fait ça. À part dans la musique où des fois, vas-y, ça a pu m'énerver certaines fois que, vas-y, le morceau, il tourne pas comme je voulais, ceci, cela, tu vois. Mais sinon, dans le reste, tu vois ce que je veux dire, pour tout ce qui est de la lumière et de la fame et tout ça, réellement, il n'y a pas eu de problème, tu vois. Et pour répondre à la question de comment tu gères le succès et tout ça, bah franchement, on a eu de la chance parce qu'on l'a très, 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 très bien géré du fait qu'on était dans un label où il y avait des gens qui ont explosé bien plus que moi, que nous, tu vois. Comme tu avais Black M, tu avais Section, tu avais Gims, tu vois. Et du coup, ça permet de garder les pieds sur terre parce qu'ils vendent des millions de CD quand toi, t'en vends des milliers, tu vois. Et c'est tout, tu vois. Donc, ça permet de garder les pieds sur terre et pas te dire que... Et puis, au-delà de ça, aussi, on se mentait pas. On se disait qu'on est là aussi un peu grâce à la machine Watibé, tu vois. Donc, on profite de cet élan de section, de games, de tout ça, tu vois, pour pouvoir se développer. Donc, on savait que, certes, on avait travaillé pour, mais qu'on a été beaucoup aidé aussi, tu vois.
Et quelle est ta relation avec justement tes proches, ta famille? Comment eux ils vivent ce succès?
Bah ma famille, tu sais, ma famille
pudique,
pudeur, hein, tu connais. Je suis un Westaf, tu vois. Je parle pas trop de ce genre de trucs, tu vois. Tu vois, moi mes darons sont dans la salade, tu vois. Tu vois, mes darons sont dans la salade, tu vois. Je vais pas leur raconter, tu vois, ce que je veux dire, tu vois. Donc pour eux c'est quelque chose
d'abstrait
et voilà, tu vois. Donc j'évite de trop en parler avec eux, enfin j'évite un peu volontairement de parler de ça avec eux. Mes frères et sœurs, tu vois, ça allait parce que voilà, tu vois, en vrai moi j'ai quitté mon là où j'habitais dans le 9 très tard, tu vois. Et non, franchement ça a pas trop changé ma relation avec les gens de ma famille.
Et tes proches, est-ce que tes amis, est-ce qu'on te voit différemment? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent plus te parler par intérêt? Est-ce que tu perds des gens de ton entourage? Il y a Metsila, par exemple, qui nous expliquait que quand lui, il a explosé dans l'humour, il y a plein de gens autour de lui, finalement, qui lui disaient « t'as changé ». Est-ce que toi, tu l'as ressenti ça aussi à travers ceux qui t'entouraient?
Non, franchement, honnêtement, parce que j'ai pas changé réellement.
T'as resté, tu vois,
je pense réellement que j'ai pas changé parce que, encore une fois, j'avais cette humilité de me dire que vas-y, il y a des gens qui pètent beaucoup plus que moi. Vas-y, comment dirais-je, dans mon label nous aide beaucoup, tu vois. Et donc non. Et puis j'étais toujours avec les mêmes potes. J'avais un groupe aussi dans le 9e et je continue à rapper avec eux. Et non, j'ai pas vraiment perdu cette attache et cet ancrage que j'avais avec les gens de mon quartier, tout ça.
Et justement, si on peut en parler, hein, tu me dis si on peut en parler ou
bien
pas,
il
y a ce rapport de la religion, la musique, on le connaît. Est-ce qu'au moment où tu commences à péter, est-ce qu'il y a des questions qui se posent autour de tout ça? Tu le disais, tes parents ils sont dans la salade, etc. Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, je ne suis pas sûr de vouloir faire ça, ou la question ne se pose pas et toi tu...
Bien évidemment, la question elle se pose, tu vois. Cette contradiction qu'on a un peu entre la musique et la religion, parce qu'on est tous, enfin à cette époque là dans mon cercle, on était tous très attachés, on était tous musulmans et tous très attachés à la religion et aussi à la musique, on va pas se mentir, tu vois. Mais on se disait à chaque fois on va dire à 30 ans, 35 ans, 36 ans, 37 ans, mais c'est très difficile de se détacher aussi d'un truc qu'on a fait depuis 12 ans, tu vois, et que tu vois. Donc la question elle se pose, mais voilà, on espère ne pas trop tarder aussi là-dedans, tu vois.
Ça veut dire que l'objectif, c'est pas de finir dans la musique non plus.
Bien sûr, tu vois. Et puis, quoi qu'il arrive, on sait jamais de quoi l'avenir est fait. Mais à part de la religion et tout ça, je pense pas que c'est quelque chose qui soit vraiment pertinent de faire jusqu'à 70 ans ou 80 ans, tu vois.
On a vu le Fa, par exemple, qui a pris la décision de se retirer du milieu, etc. Comment, toi, t'es un proche de le Fa, comment t'as vécu, toi, quand lui, il a pris cette décision-là? On a vu aussi Feneu, en tant que manager, qui, pour les mêmes raisons, a décidé un peu de se retirer de ce milieu-là. Quand vous voyez ces gens se retirer, comment vous le vivez, vous? Est-ce que vous en discutez avec eux ou pas, d'ailleurs?
Bien sûr. Bon, après, moi, je te cache pas que j'en ai pas particulièrement discuté avec le Fa, même si c'est mon grand et tout ça, mais je comprends, tu vois. Et puis même ça, quand j'entends les gens qui sont plus proches, les mecs de section parler de ça, tu vois, les gens, ils comprennent. Et gros, tu sais, ce niveau de fame, ce qu'ils ont eu, section, par exemple, à cette époque-là, c'est quelque chose de bouleversant et quelque chose de qui te secoue, en fait, tu vois. Et je peux comprendre que ça peut faire peur à plein de gens, tu vois. Et surtout quand t'as ce côté religion, je pense que c'est normal que ça te fasse peur, tu vois. Parce que, et gros, il y a combien d'artistes qui supportent pas aussi, tu vois, ce que je veux dire, la célébrité? Combien d'artistes qui craquent à cause de la célébrité? Gros, la célébrité, c'est quelque chose de... On pense que c'est facile, mais c'est pas forcément facile à porter, tu vois, mentalement et physiquement.
Il y a quoi de dur, justement, à porter? Parce que ça peut sembler fou pour les gens lambda comme ça. Ouais. Les gens, ils doivent se dire, c'est un ouf, il est connu, il a de l'argent. Enfin, oui, en tout cas, c'est l'imaginaire qu'on a, il est connu, il a de l'argent, etc. C'est quoi qui est dur à porter là-dedans?
Parce que en fait, ça dérègle ton rapport social aux gens, dans tout, tu vois, avec toutes les personnes que tu rencontres, en fait. Je pense que ça, c'est pas bon pour le cerveau humain, tu vois. Tu peux être amené à vivre des trucs qui sont incroyables, tu vois, et qui peuvent paraître incroyables pour la plupart des gens. Et tu peux vivre aussi des trucs en perso qui sont difficiles à gérer. Et en fait, cette balance, je saurais pas te l'expliquer et j'aurais pas trouvé les bons mots, mais là tout de suite. Mais en tout cas, c'est en fait voilà, ton rapport social aux gens, il change, et ça, des fois, ça peut être très troublant, tu vois. Ça va vraiment sembler vraiment difficile à comprendre, mais en tout cas, de ce que j'ai vu pour la plupart des gens, c'est pas forcément facile à porter.
Justement, il y a l'explosion du groupe, il y a Je reviendrai, Rêver, Moi d'abord. Mm-hmm. Vous êtes élu meilleur groupe de l'année 2014 au Trace Urban Award. Mm-hmm. Je suppose que c'est là où il y a l'argent aussi qui commence à rentrer. Mm-hmm. Comment on gère cette arrivée d'argent ? Est-ce que déjà il y a beaucoup d'argent qui arrive, ou est-ce que c'est un imaginaire qu'on a nous autres et on pense que vous gagnez des millions et des millions ? Finalement, ça reste très modeste.
Franchement, pour notre âge, on gagnait très bien notre vie. On va pas se mentir, tu vois, pour des gens qui ont 23 ans, 24 ans, voilà, j'avais pas du tout de problème d'argent, réellement, à cette époque-là. J'arrivais à économiser, j'arrivais à construire mon avenir et tout ça. Donc non, c'était vraiment une très belle opportunité. Et après, j'ai été un peu aidé par mon daron, tu vois, il m'a... Je m'en souviendrai toujours. Il m'a toujours dit, vas-y, en fait, achète un appartement, tu vois. Achète un appartement, vas-y, coffre et tout ça. Et tu vois, il avait quand même une bonne vision sur ça, tu vois. Donc il m'a poussé vers ça. Et puis non, franchement, j'ai jamais été trop dans ce qui était, tu vois, voiture, montre et tout ça. Et ouais, non, franchement, ça m'a permis quand même de me construire à un moment qui est important dans la vie, tu vois, c'est-à-dire au milieu de la vingtaine et à la fin de la vingtaine, début de la trentaine, tu vois. Ça m'a aidé de fou quand même.
Et à fin 2016, hein, vous annoncez sur les réseaux sociaux faire une pause sur votre carrière de groupe et vous vous lancez dans des projets solo. Comment la décision se prend ? Comment on décide d'arrêter ? Est-ce que c'est parce qu'il y a une mésentente entre vous ? Est-ce que c'est parce qu'on sent qu'on est arrivé à un moment où le groupe aussi s'essouffle, où chacun doit prendre sa route ? Comment ça se passe ?
En gros, tu sais, on était dans une période où on avait sorti deux EP ensemble, Shin Sky Volume 1, Shin Sky Volume 2. Ensuite, on a sorti un album qui s'appelle Indéfini. Et on considérait que cet album, il n'avait pas bien marché. Alors qu'en vrai, il avait grave marché, tu vois. Parce que tu sais, on était toujours dans ce truc de... On est avec Section, eux, ils rentrent à des 30 000, des 40 000. Nous, on était rentrés à 5 000 ou 4 ou 5 000, tu vois. Sans compter le stream, parce que c'était
pas à l'époque où le stream était comme aujourd'hui.
Non, si, le stream il était déjà là. Ça veut dire que le stream il était déjà là. Ça veut dire que les gens consommaient déjà le stream. Mais c'était pas comptabilisé. 4, 5 000, ouais, c'était pas comptabilisé dans les ventes. Okay. Tu vois. Ça veut dire qu'on est sorti en mai. Ça commençait à être comptabilisé en juin. En juin, ouais, je m'en souviens. Ça commençait à être. Non, bon, entre juin et octobre 2016, tu vois, ça commençait à être comptabilisé. Donc en vrai, on a fait une sortie plus qu'honorable, tu vois. Et bon, Dadju, il commence à être un peu plus sollicité en solo parce que bon, le groupe marchait mieux aussi, tu vois. Et d'une part aussi grâce à lui aussi, il faut pas se mentir, tu vois. Et du coup, je pense qu'il a saisi l'opportunité de faire son projet solo au bon moment, tu vois, parce que bon, voilà quoi, il était arrivé à un stade où avec le groupe, tu vois ce que je veux dire, il avait quand même une bonne exposition, donc je pense qu'il a décidé de faire son projet solo à ce moment-là, tu vois. Ce qui, de facto, a mis un terme au groupe, tu vois.
Du coup, c'est pas vraiment, c'est une décision parce que finalement les deux, chacun doit prendre son envol.
Bien sûr, tu vois.
Il y a pas de mésentente ou
non, réellement non.
Comme on peut entendre parfois dans le groupe.
Si, il y avait une mésentente parce que dans la manière dont ça a été fait, tu vois, mais au-delà de ça, tu vois, moi,
ça a pas entaché notre relation.
Ça a entaché notre relation parce que tu sais, quand tu travailles avec une personne depuis 456 ans, tu vois, et que tu vois, ça se sépare, tu vois, et que il y a des non-dits, des ceci, des cela, ça peut créer un froid, tu vois. Mais rien de qui ne se résoudrait pas par la communication, tu vois. Donc à partir du moment où on a communiqué, qu'on a mis les choses à plat, et ben ça allait, en fait, tu vois.
Et justement, aujourd'hui, vous êtes toujours en bon terme.
Bien sûr.
Vous,
ouais.
Quel conseil, toi, tu peux donner justement aux jeunes qui décident de se lancer comme ça en duo? C'est quoi les pièges à éviter? C'est quoi les choses à faire? Et est-ce qu'on peut assimiler un groupe de musique finalement à un couple?
Bien sûr, mais c'est, j'allais le dire en fait tout à l'heure, mais je voulais pas faire la comparaison. Mais oui, non, 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 c'est un peu comme, bah, en fait, on a un projet ensemble, c'est comme si on avait un enfant ensemble au final, tu vois. On a un projet ensemble, on l'éduque, on a un groupe, on l'éduque, on l'élève, on le truc, on essaie de, tu vois, de le faire grandir, tu vois, et du mieux qu'on peut, tu vois. Donc à partir du moment où ça se divise, ben c'est un peu comme un divorce, tu vois, parce que tu as travaillé sur quelque chose pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, tu en as donné de ton énergie. Ben, je voyais plus d'adjou que ma meuf ou bien que mes parents ou que ceci, tu vois. On a fait le tour du monde ensemble. On a vécu des moments super, super, super forts ensemble, tu vois. On s'est construit ensemble. Donc, vraiment, tu vois, c'est vraiment des choses qui sont un peu, qui sont, quand ça se finit, tu vois, ça peut faire mal, tu vois. On va pas se mentir.
Au printemps 2017, tu quittes le label Watibé et tu crées ton propre label, Colombe Noire. Pourquoi? Comment ça se fait aussi? Pareil, comment on décide de quitter Watibé et de créer son propre label?
En fait, en 2017-2018, bon, j'avais commencé à faire un peu de musique avec Watibé, mais je me suis vite rendu compte que peut-être qu'ils n'avaient pas les éléments pour me défendre à ce moment-là, tu vois. Je pense que le label aussi, il était en transition parce que bon, Gims y partait, Black M, il était toujours là. Je pense que c'était une période un peu de creux entre Watibé, même s'ils sont relevés derrière avec 4 queues, c'est avec Tiakola. C'est un peu une période de creux et je pense que vu que je suis un projet un peu hybride, je pense que c'était pas le meilleur endroit pour moi à ce moment-là, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de quitter le label et de fonder mon propre label, Colombe Noire.
Et comment se passe la création de ce label-là? Déjà, comment on crée un label?
On crée un label de manière assez facile, tu vois. On crée un label, en fait, c'est créer une société, au final. C'est créer une société et c'est vraiment pas difficile, tu vois. Il suffit d'aller à la chambre des commerces, remplir un formulaire, déposer des statuts, ça veut dire que le descriptif de l'activité de la société et je sais plus, deux, trois autres formalités administratives, et puis voilà, on a un label indépendant, tu vois. Et il suffit aussi de pas être signé chez quelqu'un d'autre, tu vois. De pas être signé chez quelqu'un d'autre et de pouvoir s'autoproduire.
Est-ce qu'il y a cette au moment où tu quittes Watibé pour créer ton propre label, est-ce qu'il y a des moments de doute, de peur? Est-ce qu'il y a un moment dans tout à ce moment-là où tu te dis est-ce que c'est la bonne décision ou pas?
Non, 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 jamais je me dis ça. Je me dis, je savais, en fait, quoi qu'il arrive, j'étais dans une renaissance. J'étais dans une renaissance, donc je savais que je partais presque de zéro. Tu vois, parce que je veux pas dire que je partais de zéro parce que j'avais quand même une exposition et des gens qui me suivaient, des gens qui m'ont écouté par la suite et qui m'ont aimé, tu vois. Mais je sais que je devais partir sur quelque chose de nouveau parce que ce que j'allais faire, ça allait pas ressembler à Shinsekai. Tu vois. Shinsekai, ça a plus profité à Dadju parce que ça ressemble un peu plus à ce que
Ce qu'il
Dadju
fait
il fait, tu
actuellement.
vois, ce qu'il fait actuellement. Mais moi, je sais que j'allais repartir de zéro, tu vois. Donc que ce soit avec Watibé ou que ce soit en solo, je sais que j'allais repartir du même point. Donc j'avais pas forcément de pression. Et jamais je me suis dit que c'était pas un mauvais choix ou pas un bon choix. Et jusqu'à présent, je le regrette pas ce choix. Je pense que c'était réellement le moment de déployer ses ailes.
Et est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière, en dehors de ça, où il y a des moments de doute, des moments de creux, des moments où on se demande est-ce qu'on fait ce qu'on doit faire, est-ce qu'on chante ce qu'on doit chanter, est-ce qu'il y a il y a un doute même sur ta propre identité
Bien sûr,
musicale?
bien sûr. Je vais pas te mentir, après Shinsekai, tu sais, quand tu passes de groupe à solo, et surtout dans mon cas de figure, ça veut dire que j'étais pas le leader de mon groupe, tu vois. Ça veut dire que Dadju était réellement le visage, pas le visage de Shinsekai, mais la voix de Shinsekai. Et c'était plus. Dadju était au centre de ce projet, vu que c'était lui le chanteur, et tu connais, on a toujours besoin que le chanteur, tu vois, il soit au refrain, et ceci, tu vois. Du coup, c'était un groupe qui bénéficiait un peu plus de donc, qui m'a moins servi à ce que j'allais faire après, tu vois. Donc, j'étais un peu dans une renaissance. Et à partir de ce moment-là, tu dois renaître en tant qu'artiste solo, tu vois, parce que c'est plus pareil, tu vois, de faire des sons solo et te reconstruire et de te reconstruire une identité qui est tout autre. Donc, ça prend du temps. Et oui, bien sûr, dans tout ce cheminement, il y a des moments de doute, tu vois, des erreurs et de l'apprentissage et des succès aussi.
Justement, comment on apprend de ses erreurs? Comment il se fait ce travail-là?
Bah, c'est un travail comme n'importe quel travail. Tu vois, j'imagine qu'aujourd'hui tu es journaliste, bah, y a certaines interviews de toi que t'aimes pas, tu vois.
Il y en a pas mal.
Tu vois, les premières, c'est normal, tu vois, ou bien l'ingé son qui est là, il y a certains mix qu'il aime pas, tu vois. Donc en fait, en faisant, tu vois, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc dans mon parcours, même si j'étais déjà un rappeur connu et accompli, et ben c'était nouveau pour moi d'être un artiste solo à ce niveau-là, tu vois. Et du coup, il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont moins bien, et on apprend de ses erreurs, comme toute chose.
Et comment ça se passe aujourd'hui pour Aboutal?
Bah, Aboutal, aujourd'hui, il a fait son bout de chemin. C'est un artiste solo qui s'est trouvé, tu vois, parce que ça met du temps aussi à trouver la bonne formule et à réellement embrasser ce qu'on est. Et aujourd'hui, c'est Aboutal, c'est un artiste qui chante plus qu'il ne rappe, même s'il est toujours très influencé par ça. Et artiste qui fait de la guitare, et voilà, tu vois.
Et justement, est-ce qu'il n'y a pas cette... c'est un débat que j'avais vu chez nos amis de Disons-nous les choses, qui passe aussi ici avec Barberiche et Booba, notamment Black Dis, et qui parlait aussi un peu de ce fait que le rap se perd aussi un peu, parce que beaucoup de rappeurs maintenant chantent, c'est beaucoup plus commercial. Est-ce que toi, tu as cette crainte que ça ne va jamais disparaître, le rap, parce que c'est un élément avec lequel tu fais passer tellement de messages, mais est-ce qu'il n'y a pas cette... Vous dites pas participer à un truc qui fait un peu... qui fait un peu diluer la chose, et finalement...
Mais oui, bien sûr, mais totalement. Mais regarde, tu sais, moi j'ai été éduqué dans le rap, mais en fait, pour moi, le rap, c'est le rap. Et moi, ce que je fais, c'est pas du rap, tu vois. Et j'ai aucun problème à le dire. Réellement, moi j'ai réellement été éduqué dans le rap. Et je sais ce que c'est le rap. Et le rap, il se meurt, tu vois. Il y a tellement de choses aujourd'hui qu'on appelle rap, mais ce n'est pas du rap, gros. En vrai de vrai. Et réfléchis bien, gros. C'est quand la dernière fois qu'on a eu un morceau sans autotune qui est un hit. Sans autotune, pas une note d'autotune, pas rien. Il n'y en a pas. Là, tout de suite, là, le dernier auquel je pense, c'est Drill FR. RDFL, les bonbons sont remplis de cocaïne. Mais sinon, gros, c'est rare. T'es obligé d'avoir de l'autotune. Et c'est en ça que le rap, il se dilue. C'est autre chose. Ça peut être très bien aussi. Et c'est très bien. Ça veut pas dire que c'est moins bien. Ça veut pas dire qu'il y a moins de messages. Ça veut pas dire que truc. Mais gros, le rap, c'est un nom. Et par contre aussi, il faut pas faire du rap une religion, tu vois. Le rap, c'est très bien. C'est une manière de s'exprimer et un art qui nous a permis de faire passer énormément de messages, mais ça veut pas dire qu'on peut pas faire passer des messages aussi importants dans un autre style, tu vois. Donc et aussi, tu vois, c'est donc tranquille en fait si tu fais pas du rap, tu vois. Mais il faut juste accepter que certaines choses, c'est pas du peu rap. Et moi, j'ai aucun problème à dire que ce que je fais, des fois je rappe, il peut m'arriver de rapper, mais majoritairement ce que je fais, ce n'est pas du rap. Malheureusement, on n'a pas encore trouvé le nom ou dire pour dire définir ce que certaines choses font, tu vois. Par exemple Hamza, tu vois, on peut pas dire que c'est du rap, on peut pas dire que c'est du R&B, mais il faudrait, ou bien ou pas aussi, tu vois, c'est pas obligé de trouver un nom pour ce qu'il fait, tu vois. Mais il faut accepter de dire que voilà, certaines choses c'est du rap ou certaines choses c'est pas du pop rap, et tranquille, il y a rien en fait, tu vois.
C'est pas grave.
C'est pas grave, ouais. Voilà, c'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout.
Il y a des gens en panique avec bien sûr, tu vois. Et t'as même des chanteurs qui refusent qu'on les appelle pas rappeurs, quoi, qui disent oh non, je suis rappeur.
Mais non, tranquille. C'est pas tranquille,
c'est pas une fin en soi.
Mais il y a des artistes qui ont passé des Bob Marley, passé des messages peut-être bien plus forts que ce que beaucoup de rappeurs y font, et pourtant ils font pas du rap. Le plus important, c'est le contenu, pas le nom de ce que tu fais en fait.
Donc le rap, il a plus du tout.
Et Marvin Gaye, il y a des gens qui ont passé des messages tellement plus puissants que le rap des fois, que tranquille en fait, si tu passes le plus important, c'est le message et ce que tu donnes à ta communauté et aux gens qui t'écoutent. Et ça peut passer par plusieurs canaux. Ça peut passer par la musique, ça peut passer par le rap, ça peut passer par le cinéma, ça peut passer par la peinture, tu vois. Le plus important, c'est le contenu, tu vois, et l'essence.
Et justement, qu'est-ce qui tient à cœur à Aboutal? Quel message il veut faire passer? Quelles sont les causes qui te tiennent à cœur?
Moi, ce qui me tient à cœur réellement, c'est la bagarre. Encore une fois, bagarre. Se battre réellement, tu vois. Moi, je veux réellement que les gens qui m'écoutent, tu vois, ce soit réellement débattant, tu vois. Et je veux que mes frères et mes sœurs, tu vois, et les gens qui m'écoutent, de manière générale, tu vois, que ce soit des gens qui aient du courage et des gens qui gardent espoir et des gens qui, malgré les obstacles, continuent d'avancer, parce que c'est ce que je suis et c'est ce que je fais, tu vois.
Et comment on se bat au quotidien quand on s'appelle Aboutal?
Déjà, il faut d'abord se regarder, tu vois, dans un miroir et accepter de se regarder sans filtre et d'accepter ses erreurs, pour pouvoir les corriger. La plus grande bagarre, c'est ça déjà, tu vois ce que je veux dire.
Mais la, c'est la, le plus compliqué.
C'est le plus compliqué, tu vois. Et jamais éviter d'accepter, tu vois ce que je veux dire, de prendre la responsabilité pour ses propres erreurs, tu vois. Et accepter que le milieu dans lequel on est, il est comme il est et qu'il va falloir faire avec, tu vois. C'est-à-dire, il y a des obstacles. Comme je t'ai dit par exemple tout à l'heure, bon, il y a du racisme, tu vois. Il y a plein de choses, tu vois. Mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je reste assis et je dis vas-y, oh, il y a du racisme, oh, c'est niqué, et oh, on peut rien faire, oh, vas-y, on est condamné. Non, frère, voilà, on va trouver une solution. Quoi qu'il arrive, on va trouver une solution, tu vois. Donc, on va essayer de contourner, tu vois. Et c'est en ça, tu vois, ce que je veux dire, que la plus grande bagarre, elle est, tu vois, contre soi-même, accepter que vas-y, frère, on n'est pas parfait, tu vois, et que vas-y, il y a des opportunités dans le monde, et même si elles ne sont pas données, on va aller les chercher, tu vois, et pas se trouver d'excuses. Non, jamais.
Et tu le disais tout à l'heure, tu as grandi entre deux cultures, France-Sénégal. Ouais. Comment il se sent le citoyen français actuellement en France et comment il se sent le citoyen sénégalais par rapport à ce qui se passe ou a pu se passer au Sénégal ?
Tu commences par lequel ?
Par le Sénégal. On commence par les racines.
Bah alors, le Sénégal, tu sais quoi, je vais parler de manière plus globale, je vais parler l'africain, tu vois. Je trouve que...
On le voit surtout en ce moment au Nigeria, Mali, etc.
Exactement, tu vois. C'est pour ça que je préfère parler de manière plus globale, tu vois. Bah, le citoyen africain qu'il est, que je suis aujourd'hui, en fait, il est très fier de l'Afrique. Il est trop fier de l'Afrique. Réellement, et l'Afrique n'a jamais été aussi attractif parce qu'aujourd'hui, elle est décomplexée. Et les Africains sont fiers d'être Africains, tu vois. En fait, on a un éveil des consciences qui n'avait pas forcément à l'époque. Moi, j'ai été éduqué par un père qui est né avant l'indépendance. Tu vois. Donc, il y a un changement de mentalité et c'est pour ça aussi qu'il y a des clashs, tu vois, générationnels. Quand tu regardes les Ouattara, quand tu regardes les Macky Sall, c'est des gens de l'ancienne génération, tu vois. Et tout ce que tu vois au Burkina et comment ça s'appelle
au Mali, au Niger,
c'est des gens qui sont plus jeunes, tu vois. Donc, il y a tu sais, la colonisation, le problème de la colonisation, c'est que la colonisation, elle était économique et tout ce que tu veux, mais elle était mentale aussi, surtout, tu vois. Et en fait, malheureusement, tu vois, je ne vais pas dire heureusement, mais c'est la vie qui fait ça, bah, les gens de cette génération-là, ils commencent à partir, tu vois. La génération de nos pères, c'est des gens qui commencent à... Voilà, tu vois. Et il y a un essor d'une nouvelle génération qui est totalement décomplexée parce qu'elle n'est pas née sous le colonialisme, tu vois. Et du coup, tu vois, ça rend l'Afrique beaucoup plus forte, beaucoup plus consciente et beaucoup plus libre, frère, dans sa manière de penser. Et je pense que là, aujourd'hui, on est réellement à un basculement. Et je pense que l'Afrique, réellement, tu vois, dans 100 ans, dans 200 ans... Et peut-être qu'on ne sera pas là pour le voir, mais et sûrement pas parce qu'au final, nous, on pense trop à l'échelle de nos vies, tu vois. Mais je pense que peut-être d'ici une ou deux générations, je pense que l'Afrique sera quelque chose de réellement de grand à l'échelle de la planète, tu vois. Je pense qu'il y aura une grande renaissance de l'Afrique. Réellement. Mais ça, je le pense, ça, j'y crois réellement. Pas forcément à mon échelle, peut-être que je ne serai pas là pour le voir, mais le mieux qu'on puisse faire, c'est d'essayer de mettre la génération d'après dans les meilleures dispositions pour pouvoir faire renaître l'Afrique, tout simplement.
Comme ils disent, on récolte ce que l'on sait, mais
exactement,
façon, chacun à son échelle
meurt. Exactement, exactement. Et réellement, il ne faut pas... Et aussi, les gens, je pense qu'ils sont trop dans le... Vas-y, il ne faut pas s'attendre à voir les résultats tout de suite, tu vois. Et vraiment pour les 2-3 prochaines générations. Et si dans 2-3 générations, dans 100 ans ou dans 150, sachant que nos pays, ils ont 60 ans, si dans 100 ans, nos pays, ils sont forts, ils sont indépendants économiquement et qu'ils prospèrent, ce serait incroyable.
Voilà. Justement, est-ce que tu as cette envie, toi, peut-être, plus tard, d'aller vivre au Sénégal ou en Afrique de manière...
Bien sûr. Et oui, au Sénégal, bien sûr, j'y pense. Et j'aimerais, mais bon, après, pour l'instant, je ne te cache pas, je ne suis pas encore prêt à retourner parce que aussi on va pas se mentir, tu vois, je suis très transparent avec ça, j'aime aussi ici, tu vois. Mais franchement, ouais, non, c'est réellement quelque chose qui me trotte dans ma tête et c'est comme je te dis, c'est trop attractif aussi, c'est trop attractif et je sens que aujourd'hui on a un tournant et ça donne envie et je me dis ah putain, j'ai peur de rater quelque chose en ne retournant pas en Afrique, tu vois.
Donc à terme c'est peut-être pas l'objectif, mais
c'est pas l'objectif, mais en tout cas c'est quelque chose qui trotte dans ma tête de fou malade.
Et tu le disais, t'aimes ici, moi je suis totalement d'accord avec ça, je trouve même que c'est normal, on est né, on a grandi ici,
mais frère,
t'es obligé d'aimer,
t'es obligé d'aimer, gros.
C'est limite un peu notre premier amour, la France, tout ce qu'elle fait. Et il y a donc cette question qui vient de comment il se sent le citoyen français aujourd'hui en France.
Le citoyen français, en fait, il y a il y a deux lectures, tu vois, il y a deux lectures. Le citoyen français que je suis dans la vie de tous les jours, eh ben, je vais commencer par l'autre lecture. Le citoyen français que je suis, bon, ça le fait chier parce qu'il est un peu stigmatisé, tu vois, dans les médias, dans pas mal de choses par rapport à sa religion et tout ça. Et ça, c'est des choses qui sont, tu vois ce que je veux dire, c'est pas... En fait, ça, c'est un fait, tu vois, on va arrêter de se mentir là-dessus, tu vois. Mais après, tu vois, ça, je sais que c'est vraiment les médias, tu vois. Dans la vie de tous les jours, même si je sais que le média gangrène la vision et la vie de tous les jours, tu vois, mais dans la vie de tous les jours, après, je sais que j'ai un statut qui est différent. Je suis artiste, tu vois. Donc, aussi, c'est autre chose, c'est une autre réalité, tu vois. Mais j'ai la chance quand même de moins ressentir, en fait, d'avoir quand même des opportunités d'avancer, tu vois. Donc, j'aime ici, j'ai des opportunités, je travaille et tout ça. Mais bon, je suis quand même un peu inquiet par la stigmatisation et par le climat en France, tu vois. Parce qu'il y a plus en plus de racisme, tu vois. Quand on était petit, il y avait moins cette haine.
C'était plus caché.
C'était plus caché. C'était plus visible parce qu'on était petit et les racistes, ils s'attaquent forcément aux plus petits, tu vois. Mais c'était moins globalisé, tu vois. Aujourd'hui, sur internet aussi, ça le fait voir, tu vois, donc c'est quand même assez inquiétant. Et il y a beaucoup, en fait, il y a une partie de la France, gros, c'est inquiétant, c'est vraiment inquiétant, tu vois.
T'as peur pour 2027?
Non, j'ai pas peur pour 2027. J'ai peur, en fait, j'ai peur de l'avenir. Je saurais pas mettre une date dessus, mais j'ai quand même peur pour l'avenir. On va pas se mentir, tu vois, on sait jamais, tu vois. Je sais pas, en fait. Le racisme, il a grandi depuis qu'on était petit, tu vois. Au début, il n'y avait pas le Front National au deuxième tour. Il est venu une fois, après, il n'est pas revenu. Après, il est revenu encore, il est venu deux, trois fois ou quatre fois, tu vois, sur tout le temps de vie, tu vois.
En 2017, si je ne dis pas de bêtises. 2017, elle était là, 2017. 2022, encore une fois, trois fois.
Donc, ça fait beaucoup, tu vois. Et... je vois sur les réseaux sociaux et dans les médias, ça grandit, tu vois. Donc pourquoi ça continuerait pas de grandir, tu vois. Donc ouais, non, ça m'inquiète.
Et à notre échelle, à tous, comment on peut faire pour peut-être freiner ça? Est-ce qu'il y a des trucs spécifiques à faire? Il y a cette question qui revient souvent et j'aimerais bien avoir ton avis dessus, sur le fait de, ouais, mais si on est stigmatisé, c'est parce qu'une partie de nous aussi, on fait... Des bêtises, donc ce serait peut-être à nous de se mettre en retrait, de se taire et de ne pas faire de bruit. Est-ce que toi, tu es d'accord un peu avec cette lecture-là qui vise à dire que si dans un groupe de 10, il y en a un qui fout la merde, bah c'est normal que les 9 autres y prennent.
Moi, j'impute déjà premièrement dans la responsabilité de la montée du racisme aux médias, frère, à une grande partie
sauf
des médias.
Sauf mon Paris FM, bien évidemment.
Ouais. Sauf mon Paris FM, sans un bout de souffle. De toute façon, si tu le faisais, tu serais pas trop crédible, mon frère.
C'est pas
au
possible.
Vu de ce à quoi tu ressembles, cher ami. Franchement, une partie des médias. Et puis voilà, économiquement aussi en France, la France n'est pas
compliqué,
tu vois, n'est pas au top, tu vois. Et les politiques et les médias, tu vois, c'est généralement, tu vois, quand ça se passe mal dans un pays, on tape en premier sur les minorités, tu vois. Et ça a été le cas dans toutes les sociétés de tous les pays, de partout dans le monde, tu vois. Donc j'impute vraiment la responsabilité à ça, tu vois. Et je peux comprendre qu'une partie des Français soient en colère et que, tu vois, parce que c'est dur, gros, on va pas se mentir, économiquement aujourd'hui c'est dur, les gens ils arrivent pas à survivre, tu vois. Et en fait les gens ils essaient de trouver des coupables à ça, mais juste il faut bien diriger sa colère, il faut vraiment bien diriger sa colère et vraiment la diriger vers les bonnes personnes.
C'est ça le conseil, bien diriger sa colère. Après, au niveau des médias, on va quand même le dire, il y en a qui font un travail formidable. On voit maintenant qu'il se beaucoup de médias comme le Bondi Blog, pour pas les citer, Banlieues Art Nouveau, beaucoup de médias aussi qui viennent pour un peu jouer ce contrepoids,
tu vois. Après, et vraiment quand je te parle de médias, je parle réellement d'une grande partie des médias de masse, tu vois, qu'on connaît,
ceux qu'on écoute le plus, malheureusement. Merci en tout cas.
Ça
s'est passé vite, ça veut dire que ça s'est bien passé.
Ouais, c'est bien passé.
J'ai un petit jeu pour finir que je fais avec tout le monde. Alors, le jeu, il est simple. Je débute une phrase et tu la finis. Par exemple, ma couleur préférée, c'est le. Et tu la finis. C'est bon pour toi?
Ouais, c'est bon pour moi.
La musique pour moi est.
Mon cœur.
Je trouve que les musiciens d'aujourd'hui sont.
Très talentueux.
Être noir en France aujourd'hui, c'est.
Un combat.
La religion pour moi est
une En fait, j'ai pas de qualificatif tellement c'est tout, en fait. C'est tout. C'est mon tout. Une, ça marche pas, mais c'est mon tout.
Le plus drôle quand on me reconnaît dans la rue, c'est...
quand on me reconnaît sans me reconnaître. Et qu'on me dit, ah, tu serais pas le frère de Gims?
L'artiste avec lequel j'aimerais le plus collaborer s'appelle...
Il y en a beaucoup, mais on va dire aujourd'hui Jordan Ward.
Sans la musique, je serais...
Oh, moins heureux.
J'aimerais dire à Dadju que...
qu'il continue à faire du bon travail.
Le plus excitant quand on est sur scène, c'est...
la communion partagée.
Le plus dur quand on est sur scène, c'est...
chanter juste.
Le futur pour Aboutal s'annonce...
Rayonnant.
Je te le souhaite. Si je devais utiliser trois mots pour décrire mon état d'esprit, je dirais...
Concentré, en paix et ambitieux.
Mon grand favori pour la Coupe d'Afrique des
Sénégal.
Nations.
Je ne laisse pas finir.
Je finis même
finis pas.
Ça
sert à quoi.
Heureusement
en fait, t'aurais même pas dû poser la question parce que c'est clair, en fait. Tu vois.
Heureusement que le Mali va l'emporter alors.
Oh, je suis pas sûr ça. Je suis pas sûr.
Aboubacar Tall, interviewé par Aboubacar Konté, c'est assez.
Ouais.
Mon interview du jour était.
C'est assez drôle. Ouais, c'est assez drôle.
Mon interview du jour, c'est, je sais même plus c'était quoi. Pourtant, je la pose tout le temps. Mon interview du jour était.
Trop courte. Ouais, franchement, bah, on a passé un bon moment.
Bah, on essayera de se revoir pour ça. Un plus long moment, mais c'est vrai que c'était, même pour moi, c'était beaucoup d'apprentissage. C'était riche en apprentissage. Merci beaucoup pour tes conseils distillés tout au long de l'émission. Est-ce que tu en auras un dernier à donner à toutes celles et ceux qui nous écoutent?
Non.
C'est bon, tout a été dit. En tout cas, merci à vous merci de nous avoir écoutés. Merci à toi Aboutal, d'avoir été là. Cette émission, bien évidemment, elle est disponible sur toutes les plateformes légales de téléchargement de podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, pour pas les citer. Pardon, et elle est disponible également sur monparisfm.com et l'application Mon Paris FM. Passez un bon dimanche, une belle soirée et faites attention à vous.
Je suis pas bien, donc la morale tu vas la faire à d'autres. Là je suis pas bien.